1 Timothée chapitre 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Alors voilà, avec ce verset-là, j'avais déjà tout clairement en tête. Il faut simplement expliquer que l'exercice corporel, ça a un petit intérêt. Ça ne dit pas « attention, ne touchez pas de ballon, ni de raquette, ne faites rien qui vous fasse transpirer, surtout ne vous faites... » C'est pas ça du tout, ça dit « l'exercice corporel est utile à peu de choses, donc rendement minime. » Mais l'exercice de la piété, et c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui rapporte le jackpot, le maximum, à court terme, parce que y a une promesse pour la vie présente, donc pour notre vie terrestre, il y a un rapport, un rendement, un avantage, une bénédiction à exercer cette piété. Et puis pour la vie à venir, donc le temps qu'on passe aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses où les gens investissent du temps, c'est un rendement, et puis après ils vont tout laisser en mourant. Tandis que les chrétiens, s'investissant dans l'exercice de la piété, ils trouvent un bénéfice à court terme, à moyen terme, ici-bas, et emportent des choses dans l'éternité. Donc on voit à quel point c'est important, et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, et c'est le rapport entre les deux qui importe, c'est de dire, il y en a un, je ne vais pas vous dire méchant, arrêtez, n'y touchez pas, diabolique, je vous dis juste, petit rendement, et à côté de ça, vous avez un rendement maximum, à court terme, moyen terme et long terme, donc n'importe quel investisseur de temps saurait où placer son intérêt, son argent, son temps. Bon, la Bible nous dit racheter le temps, donc on voit bien que c'est un investissement notre temps, ce que nous avons à disposition. On peut le dilapider, on peut le laisser filer entre nos mains, on peut ne rien faire de toute sa vie, ou on peut l'utiliser de manière fructueuse. Donc voilà, c'était clair, c'était ça le message à apporter. Et ça m'est d'autant plus facile d'en parler que si je vous décrivais une époque de ma vie où j'ai fait des études pour être prof de sport avant d'être chrétien. Quand j'ai préparé le concours, je sais ce que c'est que de passer tout son temps à faire du sport. C'est-à-dire, je me levais le matin à 7 heures et je faisais de 6 à 8 heures de sport par jour. Pendant ma période d'entraînement, j'ai fait ça pendant des mois. Pendant des mois, je ne vous explique pas pourquoi, mais je faisais de la musculation, je faisais du stretching, je faisais de la natation, je faisais de la course, je faisais du judo avec un ami, je faisais du volley. Et le soir, quand cette journée-là était terminée, j'allais à la salle et à nouveau, je faisais une petite série d'activités sportives collectives. Donc, je sais ce que c'est que de se donner tout entier. Et je sais aussi, et il faut le dire, que le sport peut devenir une idole. Que, en tout cas, l'intérêt qu'on porte à son corps ou à une activité sportive, ça peut devenir une idole. Il m'arrive encore aujourd'hui, j'ai recommencé un tout petit peu à faire du volley à Marseille. Là où je joue, j'ai des amis de mon âge, certains qui n'ont jamais arrêté, et puis d'autres qui ont arrêté, enfin, ou des gens plus âgés que moi. Et certains, vraiment, ils sont tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ils passent tous leurs après-midi, et j'en connais en particulier qui est retraité, et puis qui dit vraiment, moi, le volley, c'est toute ma vie. Quand j'entends ça d'un homme de 60 ans, je suis abasourdi, mais je sais que je le comprends. Je le comprends parce que ça peut être quelque chose qui vous saisit, qui ne vous lâche pas et qui vous prend toutes vos pensées, toute votre énergie, tous vos désirs. Bon, voilà ce que ça peut être. Mais ça peut être aussi quelque chose où on n'y consacre que ce qui est nécessaire. Le petit rendement, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que si c'est nécessaire parce que vous avez un mal de dos, moi c'était mon cas et j'ai repris à cause de mes problèmes de dos, il fallait remuscler le dos. J'ai repris un peu d'activité dans une certaine mesure. Pour être en meilleure santé, je ne m'en peins pas. Mais il faut que je fasse toujours attention à ce que ça ne dérape pas. Quoi qu'il en soit, ce matin, et j'aime bien ça, avant de parler, avant de prendre un verset et de dire ce qui me semble évident qu'il faudrait dire sur ce verset, j'ai relu tout le chapitre. Parce qu'un verset, ce n'est pas une phrase que Dieu dit au milieu d'autres phrases isolément, d'un sens, d'une direction, d'un raisonnement. Et là, en l'occurrence, l'apôtre Paul écrit à quelqu'un, il lui dit des choses précises parce qu'il a certaines difficultés dans son ministère. Et en l'occurrence, le chapitre-là a une certaine unité de sens. Alors, il ne faut pas s'en tenir à « oui, j'ai compris, je dois passer plus de temps dans la prière, la lecture, faire tout ce que je peux pour rester près du Seigneur », même si c'est vrai. Il y a d'autres choses qui sont écrites là-dedans. Juste, je rappelle ce verset dans la troisième épître de Jean, si vous voulez la lire, au verset 2. Ça pose un peu aussi le sujet. Donc, troisième épître de Jean. On y va rarement dans ces petites épîtres. Il n'y a même pas de chapitre. C'est un seul. Troisième épître, verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc, c'est intéressant. Jean, quand il écrit à cet homme-là, à Gaius, eh bien, il lui dit, « Je sais pour ton âme que tu prospères. » Mais pour lui, il dit, « j'aimerais bien que ta santé physique aussi prospère tout autant que ton âme. » Donc, manifestement, cet homme avait une vie de piété évidente, une abondance dans le Seigneur, au point que Jean ne pouvait lui souhaiter simplement que son corps aille aussi bien que son âme. Voilà, donc c'est touchant d'entendre ça. Et ça nous ramène à ces deux dimensions, ces deux choses de ce qu'on est, notre âme, notre corps, notre santé physique. C'est quand on souffre, on sait que ça, c'est difficile. Mais de l'autre côté, ben voilà, il y a le corps et l'âme. On est corps, âme et esprit. On est là pour notre esprit, on est là pour notre âme. On s'occupe un peu du corps, mais que chaque chose ait la part qui lui revient. Pas plus, pas moins. C'est le déséquilibre, en l'occurrence, qui va mal. Alors, je sais qu'on parle aussi souvent de diététique, d'alimentation. Et bon, il y a quelques règles aussi intéressantes là-dedans. D'avoir un rapport approprié à nos besoins. Vous savez, il y a les lipides, les glucides. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous connaissez tout ça. Mais on a un certain besoin, une part nécessaire. Alors, les sportifs, il leur faut plus de glucides parce qu'ils ont beaucoup d'activité. Enfin, bon, les protides, etc. Quand on déséquilibre notre alimentation, on en souffre aussi. Pourquoi je me parlais de ça ? Je me permets de parler de ça maintenant, parce que dans le chapitre, il est aussi question de ces choses-là. On va les voir ensemble. En l'occurrence, relisons à partir du verset 1, et on va survoler le chapitre ensemble. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alors là, il est question de prescrire de ne pas se marier. Donc, ces faux docteurs enseignaient des privations, des abstinences. Vous le savez, aujourd'hui, l'Église catholique exige le célibat du prêtre. On sait les dégâts que ça fait. Mais il y a d'autres religions qui prescrivent aussi l'abstinence absolue. Ce n'est pas la pensée de Dieu, au départ. Dieu n'a jamais dit que le corps était mauvais. C'était une pensée gnostique qui dissociait le corps de l'esprit. Et le corps est mauvais, et l'esprit est bon, et il faut absolument faire... Priver, le seul moyen qui nous embête plus ce corps, qui nous tente plus, c'est de le priver, de le laisser dépérir, de le laisser mourir. Donc il y avait un mépris du corps, et à la fois on pouvait faire n'importe quoi avec son corps. Et en l'occurrence, voilà, ils prescrivent de ne pas se marier, alors se mettre à l'écart, ne pas avoir de famille, ne pas avoir de soucis, pour pouvoir se consacrer à Dieu, et c'est pas la pensée de Dieu du tout. Et ce sont des faux docteurs qui enseignaient ça. Et aussi de s'abstenir de certains aliments. Alors là, on peut se dire, il fait peut-être référence au judaïsme avec ne pas manger de cochon ou d'autres. Mais vous savez, dans l'Orient, il y a aussi certaines abstinences alimentaires. Il y a les gens végétariens, végétaliens, mais il y a aussi d'autres choses. Dans certaines religions, il y a des choses auxquelles on ne touche pas et puis d'autres choses qu'on peut manger. Donc, je ne vais pas beaucoup plus loin, simplement allons dans l'Épître aux Colossiens. « au chapitre 2, verset 20, il est dit, si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Donc, il est clair que dans l'Épître aux Colossiens, il n'est pas du tout là mention, fait référence à la cache-route, c'est-à-dire la manière de manger des Juifs. Ce n'est pas du tout ça la question. Donc, c'est vraiment des principes d'ascétisme, de privation, qui étaient une pensée gnostique, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans Circulé, dans le Nouvel Âge, mais aussi de plus en plus, ça passe par d'autres portes, mais quoi qu'il en soit, ne pas toucher ça, ne pas faire ci, c'est se priver comme si ça avait une valeur spirituelle, comme si on est plus spirituel si on pèse 40 kilos au lieu d'en peser 70, comme si on est plus spirituel si on ne touche pas aux écrevisses, ou je ne sais quoi. Enfin bon. Bon, le Seigneur dit, écoute, ce qui est mauvais là-dedans, c'est un précepte qui devient pernicieux par l'abus. Il y a certaines choses, c'est évident. Là, on va être vraiment dans la diététique. Quand on abuse de certaines choses, c'est évident que ça va faire du mal à notre corps. Quand on mange mal, de manière déséquilibrée, quand on mange des produits qui sont chimiquement bombardés ou pesticides et tout ce qu'on veut, bien sûr que ça peut avoir un effet sur notre corps. Je rappelle juste aussi que le Seigneur parle qu'il a fait en nous un système qui purifie les aliments. Ça, il le dit aussi. Mais jusqu'à quel point notre organisme est capable de purifier ce qu'on lui envoie. Ça, c'est une autre affaire. Mais revenons donc à Timothée. Dieu dit en tout cas, tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Là, il parle des aliments. Il y a des choses qui ne sont pas des aliments, parce que j'entends des gens qui pourraient me dire, ah, alors, je peux fumer de l'herbe alors. Parce que c'est Dieu qui l'a fait. Non, mais j'ai entendu ça. Hein. Alors, si je ne le fume pas, je peux le faire en gâteau. Mais ce n'est pas un aliment. C'est pas vrai. Ça n'a pas de valeur. Un aliment, c'est que ça a une valeur nutritive. Donc quelque chose qui apporte parmi les nutriments, c'est un aliment. C'est Dieu qui l'a fait. Après, il y a d'autres choses qui ont des effets sur l'organisme. Bon, le Seigneur dit, fais attention à ces choses-là. Mais de notre côté, les aliments, c'est Dieu qui les a créés. Alors on ne peut pas dire que certains aliments sont mauvais. On peut avoir une allergie à un aliment, on peut avoir quelque chose de physiologique, d'accord. Mais de dire qu'un aliment est mauvais, alors que Dieu l'a créé, là, on est hors de la pensée divine. Il dit, Dieu a tout créé, rien ne doit être rejeté. Voilà. Pourvu, et c'est ce qu'il dit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. On est inquiet parfois, mais priez. Vous êtes inquiet de ce que vous mangez. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour l'instant de pouvoir manger, d'être revenu au système où tout pousse sans aucun pesticide. Vous savez, il faudrait revenir en arrière avant Tchernobyl pour pouvoir espérer que poussent dans nos jardins des choses qui sont parfaitement bio. Manger du poisson aujourd'hui, Méditerranée ou ailleurs, être sûr que rien de tout ça n'a la moindre molécule de pollution, c'est compliqué. Donc, je pense que le Seigneur a prévu quand même en nous un système immunitaire, un système de lutte contre des choses qui sont des agressions pour notre corps. C'est être en bonne santé qui nous permet dans une grande mesure de lutter contre ces choses, de les purifier, quand on est en bonne santé. Je crois au psychosomatique aussi parce que la Bible en parle. Quand on est affaibli, vraiment affaibli par un choc traumatique, affaibli par un stress, affaibli par une maladie ou par une sous-alimentation ou par une malnutrition ou toutes ces choses-là, bien sûr que le corps peut-être n'est pas plus autant en capacité de lutter contre ces agressions. Et donc, des virus, des maladies qui sont partout, qui sont dans votre bouche, qui sont dans l'air, qui sont partout, hein, soyons clairs. Eh bien, ces choses-là peuvent vous faire du mal parce que votre système de retraitement des eaux, de la nourriture, eh bien, ne fonctionne plus comme il faut. Et là, effectivement, le mal peut se répandre dans votre corps. Mais en dehors de ça, le Seigneur dit, bon, on vit où on vit, on est aujourd'hui où on est, eh bien, il faut simplement se considérer que la parole de Dieu et la prière peuvent nous aider. Alors, ça ne purifie pas les aliments. Hein. Mais, en revanche, et là on en revient à la partie plus spirituelle, puisqu'il parle de faux docteurs, de faux enseignements, finalement, voilà ce qu'il dit, verset 6, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri, on revient à la nourriture, mais cette fois-ci nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. » Et là, nous en sommes dans ce qui fait la piété, finalement. La piété, c'est quoi? On vient de le dire. La piété, qui va le dire? La parole de Dieu et la prière. La définition de la piété, bon, je sais bien qu'on a en tête simplement l'idée que c'est tout ce qui nous rapproche ou qui nous garde, qui nous permet de demeurer en communion avec Christ. C'est une question de relation. Comment on peut être en relation avec le Seigneur? Il ne faut pas croire que ça se passe comme ça. Dieu a tout donné. Voilà, dans l'épître de Pierre, il dit, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons les plus grandes et les plus précieuses promesses. Nous avons reçu son esprit et il ne le donne pas avec mesure. Nous avons la promesse que c'est une vie abondante qu'il veut nous donner. Donc, vraiment, le Seigneur a tout donné, mais à la fois, il dit, faites tous vos efforts. Et c'est là où l'exercice de la piété devient utile. Oui, le Seigneur nous donne tout, mais nous devons, quelque part, faire nos efforts. Le temps de lecture, le temps de prière, la vie communautaire, enfin tout ce qui nous permet d'alimenter cette relation avec le Seigneur. Nous avons la grâce de Dieu dans laquelle on doit se fortifier, mais à la fois on doit faire aussi des efforts, c'est ça. Et là, justement, le fait que Paul fasse le parallèle entre l'exercice de corporel et l'exercice de la piété, on sait bien ce que ça veut dire, on a bien compris. On sait bien ce que c'est l'exercice corporel. On sait quoi? On sait quand on a un objectif, si on veut gagner des coupes, si on veut gagner, ah ben, il faut quoi? Il faut s'entraîner. Quand je faisais du volleyball, c'était pas compliqué. Vous voulez jouer à un niveau de volleyball en loisir, vous faites un entraînement par semaine. Vous voulez jouer au niveau régional, il faut 2 entraînements par semaine. Vous voulez jouer en national, il faut 3 entraînements par semaine. On ne transige pas là-dessus. Vous ne pourrez pas arriver à un niveau national avec un entraînement par semaine. Donc, la vie chrétienne... Vous voulez atteindre ce que le Seigneur veut vous donner, vous voulez profiter pleinement, ben c'est le rapport, le temps, l'énergie que vous allez accorder à cela qui va vous donner le bénéfice à cela. Et là, le Seigneur nous dit, cette parole, elle est certaine et entièrement digne d'être reçue. Et je l'ai vérifié depuis 1991, chaque fois que j'ai passé plus de temps avec le Seigneur, dans la prière, dans la lecture. Chaque fois qu'on est dans un camp, dans une retraite, où on a plus de messages, où on lit plus, où on prie plus, où on partage plus, j'en ressors quoi? Mieux. Fortifié dans le Seigneur, enraciné, dans une relation, et je termine mon camp mieux qu'au début. Alors des fois, un message d'un quart d'heure, on aime bien, 20 minutes c'est bien, et on se dit, celui-là, il va prêcher 40 minutes, ça va être long. On a peur un peu de certains prédicateurs. On le sait qu'ils dépassent les 40 minutes. Des fois même, ils dérapent, ils vont jusqu'à une heure. Alors on craint un peu en début de message avec cela. Mais paradoxalement, même si les yeux parfois commencent à faire ça, paradoxalement, à la fin, on se sent malgré tout nourri, édifié, fortifié. Et on se dit, ben, j'ai quand même plus reçu que si j'avais juste eu un passage rapide d'un petit quart d'heure, d'un bon message qui m'a fait du bien. Oui, le Seigneur en 5 minutes peut vous faire du bien. Avec un verset peut vous faire plus de bien parfois qu'un message d'une heure. C'est vrai, mais il n'empêche que c'est comme si un joueur de volley disait « Oui, mais moi, attends, je m'entraîne 5 minutes, ça suffit. Je fais un beau match, je plonge une fois par... » Non, il faut passer du temps, il faut transpirer, il faut faire des efforts. Et plus on en fait, plus on en tire le bénéfice. À Toulon, il y a une équipe de rugby qui a gagné la 2e Coupe d'Europe. Très bien. Il y a un joueur qui est aujourd'hui porté au nu, c'est Wilkinson. Bon, mon frère travaille chez... Bon, je ne fais pas de la publicité. Volkswagen. Et c'est eux le sponsor à Toulon. Ils travaillent là-bas. Et c'est eux le sponsor de l'équipe de Toulon. Et ils connaissent les joueurs. Ils me disent, ce Wilkinson, il est incroyable. Il est incroyable. Oui, il est incroyable quand il joue sur le terrain. Mais il est surtout incroyable parce qu'il est connu depuis des années pour, après les entraînements, faire un autre entraînement lui tout seul. Même quand il jouait en Angleterre dans l'équipe nationale, des fois il se disait, on va le faire jouer dans l'équipe même s'il n'est pas en forme, parce que sinon il va se débrouiller d'aller faire un entraînement. Il voulait l'empêcher de s'entraîner. Après les entraînements, il prend sa balle et pendant une heure, il fait le même geste pendant une heure. Et les gens se disent, mais il est fou. Mais n'empêche que, il est capable de faire ce que tous les joueurs de rugby sont capables de faire. C'est-à-dire, tous les bons joueurs sont capables de mettre les drops qu'il met. Mais la différence, c'est que lui, il les met régulièrement. Quand c'est difficile, il ne perd pas les pédales. Quand ça va bien, il les met. Quand ça ne va pas, il les met. Et puis quand il faut en faire plus, il en fait plus. Mais il est un modèle d'exercice. Il en est arrivé à ce point-là parce qu'il a compris que c'est par l'exercice, par la régularité, par l'investissement, par l'énergie régulière et la persévérance qu'il aurait les fruits dans la durée. Voilà, c'est vrai que parfois on a le plaisir d'une chose et de l'autre, mais c'est dans la régularité, dans l'investissement, qu'on retrouve ce résultat. C'est ça que le Seigneur veut nous dire. Vous voulez avoir une vie abondante, des fois vous l'avez, et puis des fois le lendemain c'est la catastrophe. Là, vous êtes arrivé ici, vous étiez en super forme, et puis il y a eu une petite parole désagréable, et puis d'un coup, ça arrive combien de fois ça dans nos vies? Vous commencez bien la journée, vous avez lu, vous avez prié, et puis après, un petit désagrément, et puis... Le soufflet tombe et c'est la fin du monde. Et puis comme Élie, vous dites à Dieu, laisse-moi mourir. Mais on en est là. Nos états d'âme nous font dire, laisse-moi mourir. Combien de fois dans la journée, ça vous le dites? Enfin, moi, ça m'arrive. Hein. Bon, je dis, bon non, c'est une manière de parler. Mais c'est pas normal. Il faut passer plus de temps. Et je me rends compte que plus j'ai du temps dans le Seigneur avant, pendant et après, et moins j'essaie souffler dans ma vie chrétienne. Parce qu'on a tous des bons moments où le Seigneur nous utilise, et puis on a des moments comme ça. Mais c'est l'exercice de la piété qui fait qu'on a de moins en moins ces mauvais moments, et que ces bons moments, on les a de plus en plus souvent. Juste, je vais faire une dernière mise au point concernant l'exercice de la piété. Je suis tombé dessus, j'avais jamais fait attention à cette phrase-là. Regardez, toujours dans 1 Timothée chapitre 5, verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Ah. Donc manifestement, l'exercice de la piété, ça n'est pas que lire la Bible, l'étudier, l'approfondir, prier, que la vie d'église. L'exercice de la piété, c'est ce que les épîtres n'arrêtent pas de redire aux chrétiens. Il faut que les nôtres apprennent à pratiquer les bonnes œuvres. Quand je reçois des lettres de nouvelles, on a tendance, nous, à parler beaucoup d'évangélisation, tendance à parler beaucoup de distribuer, de contacter, de parler, de prêcher, de chanter, de choses liées au culte, des choses liées aux chrétiens. Et le Seigneur nous dit, mais l'exercice de la piété, c'est aussi de faire ce qu'il faut pour aider son prochain, et en premier et en particulier sa propre famille. À cette époque-là, c'était une évidence, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de retraite, les veuves étaient seules, sans ressources. Alors la priorité, le principe dont il est question là, ce sont aux enfants à prendre soin de leurs parents ou grands-parents. C'est à eux. Et c'est l'exercice de la piété. C'est pas facile. C'est à eux. Il y a un retour. Et un jour ou l'autre, si on est chrétien, on doit le considérer, on doit le comprendre. Donc, pratiquer les bonnes œuvres, premièrement, auprès des nôtres. Passer du temps à cela. Ça fait partie de l'exercice de la piété. Et je termine simplement avec cette idée que la piété, c'est aussi mettre au service des autres le don qu'on a reçu. Ça ne s'arrête pas à « je lis pour me fortifier, je prie pour que Dieu agisse. Je ne fais pas du bien seulement à mon prochain, je sers les autres. Paul rappelle simplement à Timothée qu'il doit se consacrer tout entier à ceux pour lesquels il est appelé, à savoir, c'est pour ça que c'est la suite, verset 10, nous travaillons en effet, c'est la conclusion, en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en amour, en conduite, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. J'aime bien les listes, parce que c'est un peu comme les mailles d'un filet qui se resserrent. Quand on croit que tout va bien, d'un coup on prend la liste et on se dit et moi, ça va là, en parole, en amour, en conduite, en foi, en pureté. Donc, l'exercice de la piété, ça doit permettre tout ça. Si ça change notre cœur, ça change notre vie, nos paroles, notre conduite et notre pureté, jusqu'à ce que je vienne. Et voilà à quoi il devait s'adonner. Applique-toi. À quoi ? C'est-à-dire, applique-toi à quoi ? À la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Pour toi, Timothée, l'exercice de la piété, c'est aussi de te donner tout entier. Et c'était ça, probablement, si Paul est obligé de lui faire ses exhortations, c'est que Timothée, au début, il commence en lui disant, n'aie pas honte du témoignage que tu as reçu. Et il lui dit aussi, je t'exhorte à ranimer le don de la flamme que Dieu a mis en toi. Je t'exhorte à ranimer. Donc manifestement, il avait une baisse de régime dans son ministère. Il n'était plus vraiment aiguisé. Il était peut-être découragé. Il était peut-être ramolli. On a vu, en parlant de l'Épître aux Hébreux, que quand le Seigneur dit de ne pas se relâcher, c'est littéralement de ne pas être paresseux. Et c'est intéressant que le Seigneur associe le découragement à la paresse. Et moi, ça m'a bien secoué. Parce que parfois, on traverse une série d'épreuves, on est à plat, on est abattu, on est découragé, et on dit, ouais, mais Seigneur, c'est normal. Regarde tout ce qui m'est arrivé. Et quelque part, on dit, Seigneur, j'en suis là, et tu vois mon cœur, je suis découragé, je suis triste, je ne suis pas bien, et c'est normal. Et le Seigneur, au lieu de nous dire, oh mon pauvre, relisez l'Épître aux Hébreux, vous allez voir ce qu'il leur dit. Il les secoue. Et parfois le Seigneur nous console, parfois le Seigneur nous encourage, parfois le Seigneur nous dit, ne crains pas, voilà, ne t'inquiète pas. Et j'aime chaque fois que le Seigneur me dit ça. Ne promène pas des regards inquiets, je suis avec toi, jusqu'à la fin je serai avec toi. Mais d'autres fois il dit, ne soyez pas paresseux. Paresseux d'oreille, paresseux. Il ne nous dit pas « secoue-toi », je n'ai pas vu cette expression, mais quand même, fortifie-toi. Quand Salomon était dépassé par l'œuvre qu'il attendait, construire le temple pour Dieu, c'était trop. Et il dit « je suis jeune, je n'ai pas l'expérience, ne me demande pas ça, c'est énorme, je ne peux pas ». Et le Seigneur ne lui a pas dit « mais c'est vrai, tu ne peux pas ». Il lui a dit « mais t'inquiète pas, je serai avec toi ». Voilà. Alors applique-toi à la lecture. Tu sais ce que tu as à faire. Ne me dis pas tu peux, tu peux pas, tu n'as pas la forme. Applique-toi. Vous n'entendez pas cette phrase ? Peut-être vous l'avez jamais entendue quand vous étiez petit ? Applique-toi. Vous entendez ? Peut-être ça se dit de moins en moins dans les écoles. Mais à notre époque, on faisait des lignes. Et si vous dépassiez les lettres, vous saviez l'écriture, si vous dépassiez le L, il fallait que ça soit la deuxième interligne. Et si vous alliez à la troisième, applique-toi, la deuxième, allez, le T, c'est comme ça, applique-toi. C'était une histoire de concentration, d'application. Mais le service, c'est aussi une application. On ne fait pas comme ça, oh le Seigneur pourvoit. Applique-toi. Applique-toi à la lecture. Ne lis pas comme ça en passant ta Bible. Si tu veux donner un message conséquent, si tu veux enseigner les autres, il faut que tu creuses, toi. Il faut que tu comprennes. Avant de parler, sois certaine de ce que tu as à dire. Applique-toi à la lecture et ensuite à l'exhortation. Ne fais pas ça là non plus, comme ça, négligemment. Les amis, le Seigneur est bon. Rentrez chez vous maintenant. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est une bénédiction. C'est une magnifique salutation. Mais parfois, on a besoin de repasser sur ce qu'on a à dire, de reprendre le passage tout entier, à l'exhortation et à l'enseignement. De quoi tu parles au fait ? Et j'aurais pu m'en tenir à l'exercice corporel est utile à peu de choses. Arrête, baissez un peu, faites moins de sport. L'exercice de la piété est utile à tout. Lisez plus, priez plus. Et on aurait fait effectivement un message de 5 minutes. Et peut-être c'était mieux. Mais je crois pas. Je crois que le Seigneur dit, et par la bouche de Paul à Timothée, applique-toi et continue même, ne néglige pas, verset 14, ne néglige pas le don qui est en toi. C'est une responsabilité. Je ne t'ai pas donné un don pour que tu en fasses ce que tu veux. Ne le néglige pas ce don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains et l'assemblée des anciens. Tu as une responsabilité, tu as reçu un don. Les gens qui ont un don et qui ne le mettent pas au service des autres, c'est triste. Mais ça, pour moi, ça m'énerve. Un musicien, enfin, je vois mon fils. Enfin, bon, je ne vais pas donner d'exemple familial, pardon. Ça ne se fait pas. Mais voilà, quelqu'un qui a un don et qui le garde pour lui-même, il est en train de voler les autres. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne le laisse pas dépérir, ne le laisse pas de côté. Si tu l'as, si tu as ce don, ne le néglige pas, mets-le en pratique. Voilà. Tu l'as reçu, je t'ai appelé, je t'ai demandé d'enseigner, je t'ai demandé d'exhorter. C'est un don, c'est pas question que tu es bon ou pas bon. C'est question que tu as reçu ce don, c'est spirituel, tu dois le mettre au service des autres et te donner tout entier. Verset 15, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier. Occupe-toi de ces choses. Arrête d'être par mons et par vaux à faire ce qui t'intéresse, des choses importantes, mais à investissement moyen. Non, occupe-toi tout entier de ces choses, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Dans le ministère, franchement, quand les gens dans votre église vous aiment bien, ils peuvent toujours apprécier votre message. Il y a une relation qui s'est créée, et on peut trouver bien un message de, parfois que vous n'avez pas assez préparé. Le Seigneur est bon, bon. Mais c'est quand même bien que l'Église puisse constater les progrès de ceux qui servent en son sein. Qui ne stagnent pas depuis des années, on sait à peu près ses messages, on sait à peu près comment il va parler, on n'est jamais surpris. C'est... Voilà, il y a bien les trois points, il y a bien l'illustration, il y a bien à la fin quelque chose qui nous secoue un peu, et l'application, il y a bien tout ce qu'il faut. Voilà, ça va, on a eu notre message, et on repart le dimanche en ayant eu notre message. Je ne crois pas que ça soit sain. Il faut qu'il y ait cette relation de confiance. On n'est pas là en train de guetter la moindre erreur doctrinale ou de guetter si ce jour-là il est bien préparé parce qu'on se sent bien ou pas bien ou parce qu'on a eu un hérissement de poils sur les... J'ai entendu ça. Oh là là, ce jour-là, j'ai eu les poils hérissés. Ça devait être un bon message. Non, moi je préférais que les gens aient bien compris. L'enseignement, c'est pour être compris. Et effectivement, après, encourager à mettre en pratique. Quand, dans nos milieux français, on a tendance à dire « Oh, il suffit d'enseigner la Bible, et puis le Seigneur fait tout. » C'est vrai. Mais quelque part, quand le Seigneur envoie les disciples, il leur demande quoi ? Enseigne-leur la Bible. Il leur dit « Allez, faites de toute nation des disciples, les baptisants, et enseignez... » On entend quoi ? Et enseignez-les. Mais en fait, c'est enseignez-leur à observer. Et quand il est question d'enseignement, il est question aussi d'exhortation. Il faut qu'il y ait une direction qui soit donnée, une mise en pratique qui soit possible. Il faut qu'après avoir entendu un bon ou moins bon message, en tout cas, il faut qu'on ait compris ce qu'on a à faire. La Bible n'est pas simplement pour être enracinée dans les Écritures, la piété n'est pas simplement pour être mieux dans le Seigneur, c'est que si ça ne découle pas sur « maintenant, comment je vais servir mes frères et sœurs ? À quoi je vais être utile ?» Quel don je vais pouvoir apporter aux autres ? Où est-ce que je vais pouvoir servir ? Ben si c'est juste « Ah, je me sens bien, ça m'a fait du bien, vraiment cette retraite, je rentre chez moi, tellement mieux que ce que je suis arrivé. » Et après, on regarde la suite et rien de plus. Enfin, le dimanche d'après, « Oh non, je suis toujours pas bien. » C'est qu'il manque la mise en pratique. On n'est pas bien, pourquoi ? Parce qu'on est heureux. Que quand on se sent utile, on est heureux que quand on met en pratique. C'est ce que dit l'épître de Jacques. Celui-là est heureux. Un, il se regarde dans le miroir, il voit bien, il a compris, le Seigneur m'a montré ça, il m'a dit ça et tout ça. Et puis il repart comme ça, et sans que rien n'ait changé. Et alors il retombe encore, il déprime, il n'est pas bien, il ne fait rien. Et puis l'autre dit, ben, j'ai entendu ça, ben, c'est ça que je vais faire. Et il met en pratique, et c'est celui-là qui est heureux. heureux. Heureux parce qu'on est heureux dans le service. On n'est pas heureux à s'occuper de soi. On n'est pas heureux à recevoir. On est heureux parce qu'on a reçu de la nourriture. Mais la nourriture est bonne, pourquoi ? Parce qu'elle nous donne la force de faire ce qu'on a à faire. Si vous mangez, vous mangez, vous mangez, et que vous ne faites rien, qu'est-ce qu'il arrive ? On prend du poids. Si vous faites du sport, et vous faites du sport, et vous faites du sport, et que vous ne mangez pas, poum ! Hypoglycémie. Au minimum, et puis plus. En fait, les deux vont ensemble, nourris des paroles de la foi, paroles, prières, et mise en pratique. C'est comme ça que se fait l'équilibre, et qu'on devient, entre guillemets, athlète. Parce qu'on est nourri, parce qu'on prie, et parce qu'on obéit et qu'on met en pratique. Alors voilà, verset 16, « Veille sur toi-même. » Ça semble un peu un message pour exhorter les pasteurs ou les missionnaires ou les étudiants, mais c'est valable pour nous, chacun de nous à notre niveau. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. » Avant de parler, sois sûr que ce que tu vas dire... Des fois, voyez ce message, j'ai hésité. Vous savez pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte qu'on allait parler de nourriture, et c'est un sujet un peu sensible. Je me suis dit, oh là là, je devais juste parler d'exercice corporel et d'exercice de la piété. Là, ça allait être consensuel, il n'y avait pas de souci. On a tous compris que pas trop de sport et plus de piété. Et puis, dans le chapitre, toutes ces questions, là, les faux docteurs, les histoires de nourriture, je me dis, oh là là, où je vais là ? Et puis, je me dis, bon, c'est ce que dit la Bible, point à la ligne. Je ne peux pas dire moins, je ne peux pas dire autrement. Je lis les versets, je vois ce qui est écrit, je l'enseigne. Voilà, et je suis tranquille parce qu'on ne pourra pas me reprocher autre chose que ce qui est écrit. Voilà, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Fais attention de ne pas aller au-delà. Tiens-toi à ton enseignement, d'accord ? Persévère dans ces choses. Pourquoi ? Parce qu'en agissant ainsi, tu te sauveras d'abord toi-même. C'est-à-dire pas sauver pour l'éternité. Tu sauveras ton âme. Si tu appliques ces choses que je te dis, déjà, ça te sera bénéfique. Tu seras gardé des fausses doctrines, tu seras bien nourri dans la foi et tu te sentiras utile et heureux. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Que le Seigneur bénisse cette retraite, les autres messages. C'était une introduction. Nous entendrons parler de la parole, de la prière, et puis la partie pratique, la marche par l'esprit. On hésitait entre marche par l'esprit, vie par l'esprit, communion. On verra. Le Seigneur dirigera ce message. On va terminer par la prière. Je vais demander à Randy s'il veut bien prier maintenant.